Verset 6 nous dit: oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui, Dieu est notre refuge. a la conviction ce matin que ce temps de louange, Dieu le veut particulier, intimiste, avec cette notion de refuge. Je ne sais pas avec quel fardeau vous êtes venu cette semaine, je ne sais pas vos défis, je connais les miens. Mais je sais que j'ai besoin de venir dans cette présence de Jésus, parce qu'il est ma forteresse. Si lui est ma forteresse, alors tous mes raisonnements, toutes les choses qui peuvent me polluer, m'envahir, me pressuriser, peuvent tomber lorsque je décide de détourner mes regards de mes soucis pour les fixer sur celui qui est mon refuge et ma forteresse. Alors on va prendre ce chant ce matin, ébloui, qui nous parle de ce Père vers qui on peut s'approcher ce matin. J'aimerais que tu ne puisses ne pas te priver de la présence de Dieu, il est accessible ce matin pour quiconque est entré dans ce lieu. Peu importe ta semaine, peu importe tes difficultés, tes luttes et tes combats, Dieu est accessible ce matin et on veut aller chercher ce Dieu qui est notre forteresse et ce Dieu qui est victorieux aussi pour nos vies. Amen. On va lui dire: je viens vers toi.
Je viens vers toi dans le secret. Sa présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur.
Peut-être que ton père terrestre a échoué, mais tu as un bon père céleste qui veut prendre soin de toi ce matin et on veut le proclamer. Il est notre lumière et on veut se laisser inonder encore ce matin de sa présence. Alléluia, Jésus. Tu es là ce matin dans ce Dieu, Père éternel. Je te prie de passer dans les rangs, de venir visiter, de venir communiquer une touche de ta présence dans ce lieu. Toi, le bon papa du ciel qui prend soin de chacun, chacune de tes enfants.
Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laisse pas. Sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient, je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main, j'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'a I'm not afraid to die.
grâce de pouvoir construire notre maison sur le roc. Jésus ne nous a promis qu'il n'y aurait pas de tempête, qu'il n'y aurait pas de vent, qu'il n'y aurait pas de pluie, qu'il n'y aurait pas de difficulté. Mais il nous a dit que si nous fondions notre maison sur le roc, alors lorsque la tempête viendra, lorsque les vents frapperont, lorsque la pluie s'abattra, la maison tiendra ferme parce qu'elle est fondée sur celui qui est solide, sur le roc. Peut-être ce matin, tu es dans une saison de pluie. Peut-être pour d'autres, ça va bien en ce moment. Je voudrais inviter, alors qu'on va prendre ce chant qui dit « Abrite-moi », à celles et ceux qui vont bien, de penser à ceux qui vont moins bien en ce moment. Et que les uns et les autres qui vivent, qui traversent une saison de difficulté, puissent proclamer ce chant comme une prière « Abrite-moi sous tes ailes ». Peut-être tu as besoin de secours et de réconfort ce matin. Tu es à la bonne place. Parce que là, lorsqu'on est assemblés en son nom, Jésus est présent. Et je crois qu'il veut passer encore, toucher, nous renforcer ce matin. Puis ceux qui vont bien, c'est l'occasion de penser aux autres, de sortir de notre petit égocentrisme où finalement tout va toujours bien dans notre vie puis on ne s'intéresse pas aux autres. L'Église est une famille et on ne cessera de le proclamer dans ce lieu. L'Église est une famille. Et lorsqu'un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent. Lorsqu'un membre se réjouit, c'est tous les membres qui se réjouissent. J'invite ceux qui sont dans la joie ce matin juste à penser peut-être à des situations de vie. Il y en a qui sont dans la difficulté, que ce soit dans l'église locale ici, mais peut-être des frères et sœurs que vous connaissez plus loin, des membres de votre famille, peu importe. Et que ça puisse être un temps où on se tient devant celui qui veut abriter encore, celui ou celle qui est fatigué ce matin.
Je suis tranquille.
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
Pendant que la musique continue, je veux inviter seulement, si quelques-uns veulent élever la voix ce matin dans ce lieu, pour s'approcher de lui, pour le louer, pour déclarer qui il est. Juste prendre quelques instants pour élever la voix.
Encore un instant, rester juste debout dans la présence de Dieu. Je voudrais soumettre à chacune et chacun d'entre nous une pensée qui me travaille depuis quelques minutes maintenant et que je voudrais vous soumettre. Et on exerce les dons spirituels, on croit que le Saint-Esprit encore aujourd'hui peut exprimer des pensées, des paroles dites de connaissance qui viennent révéler un aspect de quelque chose pour que la personne puisse vivre un déblocage dans sa vie ou alors un retour à Dieu ou autre. Et je voudrais vous soumettre cette pensée qui m'est venue. Il y avait ce premier mot qui est venu à mon esprit, une maison. Et comme si tu as un toit sur ta tête, tu as une maison, mais tu ne sais plus où est-ce que tu habites dans la vie. Tu ne sais plus où tu en es. Et quand j'avais eu cette pensée de dire, ok, une maison, mais la personne ne sait pas où elle habite, pourtant elle est en sécurité, il y a cette pensée qui est venue, que je veux soumettre aussi, c'est que tu ne sais même plus si la famille qui est la tienne est vraiment ta famille. Tu es comme perdu, tu ne sais plus si ton histoire familiale, c'est vraiment ton histoire, si tes parents sont tes parents. Il y a comme quelque chose où tu sens que tu es perdu, tu sens qu'il y a une filiation familiale, tu te sens isolé, tu te sens seul, tu te sens vraiment perdu. Tu peux être entouré et pourtant tellement seul. Et c'est, tu t'interroges vraiment ton histoire, tu interroges vraiment ta situation familiale en te disant « je ne sais plus où j'habite ». Il y a cette pensée de Dieu, peut-être pour quelqu'un, qui dit que même si tu ne sais plus où tu en es ou quoi, Dieu veut être ton repère. Dieu veut te rassurer, te dire que ton histoire, il la connaît. Que l'homme peut décevoir, lui ne te décevra pas. Et que l'histoire de ta maison, l'histoire de ta vie, Dieu veut guérir. Dieu veut restaurer. C'est pour ça qu'il est en train de faire ressortir un certain nombre de choses de toi, de tes relations familiales, de cette insécurité que tu ressens, de ce côté où tu ne sais pas quelle est ton histoire, tu sais pas, tu es perdu, tu te dis mais je suis là, mais je suis étranger. Dieu veut que tu puisses trouver la paix dans une guérison intérieure. Dieu veut vraiment te rassurer qu'il a ton histoire de vie entre ses mains. Ton histoire de vie est entre ses mains. Et que tu peux, à partir de là, construire, poser les bonnes questions. Et même si tu n'auras pas toutes les réponses sur ton histoire familiale, le Seigneur te dit, même sans réponse, je peux guérir ton cœur. Je peux te rassurer. Je peux te rassurer. Je peux te donner cet avenir, cette espérance, cette paix. Alors qu'on est dans le recueillement ce matin, on aimerait exercer la foi et si quelqu'un se retrouve dans cette pensée, elle peut simplement se faire connaître, on voudrait prier pour toi et de dire « Oui Mathieu, je suis dans cette situation-là, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Juste fais-toi connaître en levant ta main. Ça se peut que je me suis trompé, qu'il n'y aura personne. Mais c'est pas grave, j'apprendrai à exercer un peu mieux, discerner un peu mieux. Il y a une personne qui est en train de lever sa main. Il y a peut-être une autre personne. Il y a quelques personnes qui se reconnaissent dans cette situation difficile. Église de l'Épi, est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel ensemble et prier que la maison, leur vie, soit remplie de la présence de Dieu maintenant. Seigneur, nous te prions pour ces personnes qui lèvent la main. Et qui se reconnaissent dans cette notion d'insécurité familiale, d'être perdus, de ne plus savoir où ils s'en sont, où ils habitent, où leur vie a un sens. Nous te prions de les remplir du Saint-Esprit maintenant, afin que le sens soit trouvé en Jésus et dans sa présence. Nous te prions pour qu'une guérison intérieure puisse prendre place maintenant. Nous te le demandons, Seigneur, vraiment que dans l'intimité de leur histoire, le Dieu de gloire, le Père céleste, se révèle, qu'il puisse être le fondement pour rebâtir cette vie, pour rebâtir la vie des personnes qui ont levé la main. Il y aura plusieurs étapes. La première étape, c'est de se laisser abandonner dans la présence de Dieu, de pouvoir garder les yeux fixés sur Dieu. On te prie de te révéler à chaque personne qui a levé la main maintenant, d'une manière particulière. Tu connais mieux leur parcours que nous. Nous, notre prière, c'est que tes mots procurent la vie, la guérison, la paix dans le cœur de celles et ceux qui ont levé la main pour dire « Jésus, c'est moi ». Nous te demandons cela, Père, dans le nom de Jésus, en croyant que le Saint-Esprit est à l'œuvre encore. Amen. Peut-être qu'en a cappella, on pourrait faire cette déclaration de nouveau, même si les océans, mais que l'Église puisse prendre sa place de déclarer, de dire « Même si les océans se déchaînent, je
Dans le même ordre d'idée, je pense qu'il y a une personne qui est venue dans ce lieu ce matin avec ce mot abandon et rejet, ces mots abandon et rejet sur ta vie. Jésus te dit ce matin, je t'accueille, je suis ton père et l'Église est ta famille. Tu es venu avec ces mots abandon et rejet qui sont comme forts sur ton cœur ce matin quand tu es entré dans ce lieu. Jésus te dit, je t'accueille. Je suis ton père et l'Église est ta famille. Merci Père parce que un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Merci parce que nous avons accès à ta présence. Merci Jésus parce que tu as fait ce qu'il fallait pour que nous, tes enfants pécheurs, puissions entrer dans ta présence et être au bénéfice de ton amour, de ton pardon et de ta grâce. C'est avec foi encore ce matin et confiance dans ce que tu fais et de ce que tu as accompli pour nous, Père, que nous nous approchons encore ce matin dans ce lieu, Jésus. À toi toute la louange et la gloire, Père. Amen. Amen. Dans quelques instants, nous aurons encore le temps de pouvoir être à l'écoute du conseil de Dieu, mais juste vous communiquer quelques annonces pour l'Église. Vous savez, l'Église, ce n'est pas seulement un bâtiment, mais c'est aussi l'occasion de vivre le bien vivre ensemble et plusieurs occasions de le faire cette semaine. Tout d'abord par trois jours de jeûne et prière qui débutent à partir de demain soir. À 19h30, Venez, prenez ce temps, que vous jeûniez ou que vous ne jeûniez pas. C'est pas grave. Venez passer du temps où on veut chercher la face de Dieu ensemble en Église. On croit qu'il se passe des choses lorsque le peuple s'approche de Dieu et dépend de lui. C'est des temps pour être encouragé, fortifié, pour venir avec nos besoins, mais aussi pour prier pour le besoin des autres. Que ce soit individuel, que ce soit au niveau de notre communauté, mais aussi pour notre société qui, je le crois, a besoin de prière. Amen. Qu'il croit ce matin que, vous savez, si ce n'est pas l'Église qui bénit la société, qui va le faire? Si ce n'est pas l'Église qui prie pour notre pays, qui va le faire? On a besoin de se tenir sur nos genoux. Et c'est notre mission. C'est la mission que Jésus nous a confiée. Alors, venez profiter de ces temps. Il y aura des petits temps de louanges, de prières, des petites exhortations. Mais on veut vivre ça ensemble parce que les défis sont grands devant nous. Mais nous avons un grand Dieu qui est présent et qui s'attend à ce qu'on s'approche de lui. Donc, jeûne et prière, lundi, mardi et mercredi dans cette salle à 19h30. Une autre manière de bien vivre, le vivre ensemble, c'est la marche pour la fraternité qui aura lieu dimanche prochain, le 9 novembre. Le départ aura lieu à l'église apostolique arménienne. Puis ensuite, le groupe se rendra dans le jardin interreligieux de l'Améno, synagogue de l'Améno, et arriver jusqu'à la mosquée Ayoub Sultan. Nous voulons être au contact de nos frères en humanité. Je n'ai pas dit frères en Christ, mais nos frères en humanité. Parce que Jésus veut que nous soyons ses pieds, ses mains en action, en bâtissant des ponts plutôt qu'en érigeant des murs. Donc voici pourquoi on veut s'associer à ce qui se passe dans le quartier, ici à Strasbourg, pour bénir notre ville. Parce que c'est l'invitation de la parole de Dieu, de chercher le bien de la ville où Dieu nous a placés, parce que notre bonheur dépend du sien. Amen. Donc, marche pour la fraternité pour ceux qui veulent la semaine prochaine. Nous aurons également le 9, la collecte. Épicollecte, vous savez que l'Épi, par son bras armé en jeu, vient pour aider toutes les personnes en situation de précarité via des colis alimentaires. Et donc, vous savez que pour renforcer un peu les colis alimentaires que nous avons via la banque alimentaire, vous pouvez amener des denrées. Il y a toute une liste qui est à l'espace vie d'église. Il y a une petite feuille. Si vous avez à cœur de ramener des denrées non périssables, vous allez au point à l'espace vie d'église juste à la sortie. Il y a une liste des choses que vous pouvez apporter dimanche prochain. Et il y aura toute une équipe qui sera là pour réceptionner. Ensuite, la semaine dernière, on vous a présenté une vidéo qu'on ne va pas vous repasser ce matin, mais de l'association Hope and Joy qui intervient auprès des personnes en situation de prostitution. C'est une association qui est basée sur Montpellier et qui a vraiment des contacts et qui a envie de s'étendre, de travailler. Il y a une de leurs leaders qui est sur Mulhouse et qui est en train de développer tout le pan de Strasbourg. Alors, s'il y a des gens, des personnes intéressées, il y a des jours de formation qui sont proposés. Donc, il y aura une formation qui aura lieu le 15 novembre à l'EPI et le 31 janvier. Donc toutes les infos, vous les avez sur le flyer dans le hall d'accueil. Donc n'hésitez pas à aller voir pour celles et ceux qui seraient intéressés de faire ce travail de contact auprès des filles de la rue. Une autre info importante, on vous l'a dit depuis quelques semaines, nous avons notre assemblée générale extraordinaire le 16 novembre avec un temps de vote, vous savez, pour l'embauche d'une assistante pastoral, le travail, les missions sont grandes à l'EPI, on vous l'a présenté, vous avez toutes les infos aussi derrière à la table si vous avez besoin encore de réfléchir, de voir les tenants et les aboutissants. Mais il y a un temps de vote la semaine prochaine pour tous ceux qui sont membres de l'EPI, membres administratifs, j'entends. Donc si vous ne pouvez pas être là, s'il vous plaît, voyez des frères et sœurs que vous connaissez, donnez-leur votre procuration pour pouvoir voter afin que l'Église puisse faire un choix éclairé sur ce besoin qui a été identifié par le Conseil d'Église, mais qu'on soumet à l'Assemblée Générale pour une décision. Donc vraiment, c'est important, ça détermine aussi l'avenir et la direction qu'on veut pour l'EPI. Donc on a besoin de votre avis, on a besoin de votre vote pour savoir aussi et nous orienter dans les directions de l'Église. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Je vais inviter Mathieu à s'approcher. Mathieu qui nous revient du soleil. Et on va prier pour que son soleil, ce qu'il a reçu, puisse encore venir nous réchauffer dans ce mois de novembre pluvieux. Et on va inviter la grâce de Dieu pour ce temps encore ce matin. Seigneur, on te remercie pour ce que nous avons déjà vécu. Mais nous croyons que tu as encore une parole, que tu as encore de la nourriture pour nous équiper ce matin, Seigneur. Alors je te prie pour Mathieu, ce que tu as déposé sur son cœur, qu'il puisse le déverser de tout son cœur, Seigneur, et que ça puisse encore venir contribuer à solidifier, à fortifier notre foi en toi, Jésus. On bénit ton nom pour ta présence dans ce lieu, Père. Amen. Amen.
Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Bonjour. On est en
en mode un peu intimiste, et c'était vraiment voulu de prendre du temps dans la présence de Dieu, et on va rester sur ce ton-là. Mais je vais démarrer en trois grosses étapes. La première étape, c'est que je voudrais remercier pour toutes celles et ceux qui ont prié pour moi pour ce séjour à l'île de la Réunion. Beaucoup m'ont demandé comment se sont passées les vacances. Ce n'étaient pas des vacances. Même si je suis de là-bas, que j'ai beaucoup de contacts, de réseaux, que plusieurs des dizaines de personnes m'ont vu grandir dans la foi, m'ont vu aussi dévier très très loin de Dieu et revenir très très fort à Dieu, j'étais invité dans le cadre de mes missions pastorales pour un temps de conférence de jeunesse où des centaines de jeunes de l'île de la Réunion se rassemblent dans un même lieu pour chercher Dieu, pour vivre des temps forts, pour être enseignés dans la parole, pour vraiment grandir dans leur foi, certains même pour découvrir la foi. Ça, c'était le premier week-end, et je suis intervenu 5 fois en 2 jours. Et ensuite, il y avait une semaine qui suivait avec l'église, qui était mon église locale quand j'étais jeune dans la foi, une semaine où on partage l'évangile en plein air. Donc oui, effectivement, j'ai annoncé l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ, avec la mer et le coucher de soleil, mais le plus important, c'était des centaines de personnes qui avaient soif de Dieu et beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas Jésus et qui ont entendu l'évangile. Et donc avec tout le corps pastoral de l'île de la Réunion, j'ai pu vraiment servir Dieu pendant ces 2 semaines, et Dieu m'a fait beaucoup de clins d'œil. Et pourquoi je remercie celles et ceux qui ont prié pour moi? Parce que revenir comme ça, là où tu as grandi, là où tu as vécu le pire et le meilleur, forcément ça vient te chercher. En plus, je n'étais pas avec Magali, je n'étais pas avec les enfants. Du coup, j'étais face à mon histoire, j'étais face à moi-même. Et souvent, Michel le dit, quand on sait d'où l'on vient, on sait où on va. Et du coup, ça a beaucoup bouleversé plein de choses en moi. Et ce n'était pas juste un voyage pour servir, mais Dieu a vraiment renouvelé mes forces. Dieu m'a vraiment encouragé. Je sais d'où je viens, je sais d'où Dieu m'a tiré, et de voir aussi l'Église qui investit en moi pour que je puisse être celui que je suis, ça m'a aussi rappelé que, oui, j'ai démarré à La Réunion, mais l'Église de Lépi, l'Église d'Auxerre ont été des églises qui ont vraiment participé à bâtir ma vie de disciple. Et ça m'a rappelé qu'en fait, l'Église... C'est beau. Voilà, j'ai pas d'autres mots. L'Église, c'est vraiment quelque chose de fort pour un disciple de Jésus. Et ça m'a donné encore plus d'énergie, plus de force de dire, mais Seigneur, que l'Église de Lépi puisse continuer à prendre soin des gens. Qu'on continue à donner soif d'aimer Jésus, d'aimer son prochain. Qu'on soit connu dans Strasbourg, dans l'Eurométropole, dans le monde spirituel. Oui, peut-être on est une église qui n'est pas parfaite, on a encore plein de choses où on a besoin de la grâce de Dieu, mais qu'on soit une église qui soit connue dans le monde spirituel pour aimer Dieu, pour aimer les gens, pour aimer la vie. Et pour faire en sorte que plusieurs disciples de Jésus se lèvent, soient bâtis, comme l'église de Lépi a participé à bâtir ma vie spirituelle. Finalement, ce n'était pas un retour en arrière, c'était me rassurer pour la vie d'aujourd'hui. Alors un grand merci à vous. Et vous souvenez, je vous avais demandé de faire une petite vidéo où, pour la première fois dans l'histoire de l'Alsace, des centaines d'Alsaciens ou d'habitants d'Alsace ont pu dire « Bonjour, comment allez-vous en réunionnais ?» Vous vous souvenez? Vous étiez là, ça les a beaucoup touchés. Au point même que, du coup, ils veulent nous rendre l'appareil. Alors du coup, juste, je fais un petit avertissement, je ne suis pas barinois, moi, je suis orinois. Et donc nous, on a plutôt tendance à dire « Manala ». Ah, d'accord. Donc quand ils vont parler en alsacien, comprenez, monsieur et madame les barinois, que ici c'est les orinois qui ont discuté, qui ont parlé, d'accord? Voilà, donc une petite salutation de la part de l'église réunionnaise.
On va lâcher le plus beau alsacien qu'on a jamais lâché à l'île de la Réunion. Ok, donc à trois, on fait un dernier petit agien. Guten Morgen, Bissoma. Oh là là, incroyable. À trois, hein. 1, 2, 3. Oh là, on peut vous applaudir, incroyable. Et beaucoup.
Il me semble...
Vous pouvez prendre place.
Il parle un peu trop, celui-là, je trouve. Il me semble que dans l'histoire de la Réunion, jamais, là on est à peu près 1000, il me semble que jamais 1000 réunionnais n'ont parlé alsacien, comme quoi l'Alsace influence le monde entier, on peut s'applaudir pour ça. Hein ? Hey, les amis, j'ai envie de vous dire, c'est ça l'église de l'Épi. C'est des espaces de rencontre entre cultures. C'est des espaces où on se rassemble les uns les autres. Et justement, je voudrais prendre un temps maintenant pour juste vous présenter un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de la levée de fonds, du financement participatif. Pourquoi nous mettons autant d'efforts à faire en sorte que cet outil bâtiment puisse servir à bénir et continuer de bénir les générations présentes et futures. Il y a quelques semaines, Anne nous a présenté notre amour inconditionnel pour les 0-25 ans et pour les besoins spécifiques qu'ils peuvent avoir, comme troubles autistiques ou autres. Et aujourd'hui, on va écouter RP qui va nous rappeler pourquoi on est en train de faire tout ce qu'on fait avec cet outil bâtiment.
Bonjour à tous, on s'est vu dimanche dernier pour parler de EPI, espace de rencontre, un magnifique projet de rénovation de ces locaux. Pourquoi rénover ces locaux? Pour continuer par exemple la formation. À l'EPI, c'est 60 à 80 personnes qui sont accompagnées chaque année, que ce soit pour découvrir ou approfondir leur connaissance de la Bible, mais aussi pour être préparées à la formation mariage, au parcours baptême, afin de refléter l'amour de Jésus dans la famille, dans la société, mais aussi ici, sur Strasbourg. Alors si tu veux nous découvrir, nous soutenir, tu peux le faire en cliquant sur le lien suivant.
Un espace de formation de disciples. Voilà pourquoi on met toute notre énergie. Et pendant tout le mois de novembre, on va continuer à communiquer sur qui nous sommes en tant qu'Église de l'Épi, notre cœur, nos visions, les ministères que nous portons, les services que nous offrons aux uns et aux autres. Ça passera par les réseaux sociaux, ça passera aussi par des temps de célébration en annonce le dimanche matin. Point d'étape sur le financement participatif que l'on a lancé il y a maintenant 30 jours. Alors je rappelle un petit peu, parce que peut-être vous rejoignez l'EPI, peut-être que vous n'étiez pas là depuis un certain temps. Un petit rappel sur la temporalité. Où est-ce qu'on s'en trouve dans ce, où est-ce qu'on se situe dans ce projet? On est dans la finalisation du plan de financement. Il y a plusieurs étapes dans cette finalisation. Là, on en est dans l'étape de la levée de fonds à destination des amis de l'EPI. Qu'est-ce qu'on entend par amis? On entend par amis les personnes qui ont vécu l'EPI avec nous, qui ont vécu l'église locale avec nous, maintenant qui ont déménagé, qui sont partis dans d'autres régions et qui auraient à cœur de continuer à nous soutenir parce qu'ils ont été au bénéfice de ce qu'on a pu vivre ensemble, des églises sœurs, des associations qui portent avec nous les mêmes valeurs solidaires ou spirituelles. Et l'objectif, c'est vraiment par cette première partie, cette première étape, de lever des fonds et d'inviter les amis de l'EPI à nous soutenir dans ce projet. Comment ça se passe? Par vos partages, qu'ils soient par WhatsApp, qu'ils soient par les réseaux sociaux, qu'ils soient par des mails ou autres, eh ben, les personnes peuvent découvrir tout notre projet sur une seule et même page en ligne et on va vous la représenter ici, on va vous la reprojeter. C'est une page Hello Asso. C'est l'endroit où les personnes arrivent quand elles veulent découvrir où est-ce qu'on en est, quel est notre projet d'église. Il y a une présentation, il y a une vidéo, il y a là où on en est à l'instant T. Et tout y est pour qu'ils puissent découvrir et soutenir le projet. Quelques chiffres par rapport à ce qui s'est vécu pendant ces 30 jours et aussi des remerciements. On avait démarré cette campagne à 3%, on est aujourd'hui à 5%. Il y a au démarrage de la campagne une récolte qui avait atteint 56 000 euros. Là, vous le voyez, on est à 90 005 euros en 30 jours. Il y a une église, par exemple, qui n'est pas connectée aux assemblées de Dieu, qui n'est pas connectée à notre église, qui a fait un don de 1 000 euros à l'église de l'EPI. On a une personne qui ne vit pas à l'église avec nous, qui est une amie, qui nous suit en ligne, qui connaît des gens ici à l'église, qui a décidé de pouvoir donner 500 euros par mois jusqu'à la fin de la levée de fonds. On a des étudiants, des jeunes qui ont pris le projet aussi à bras-le-corps et je voudrais les remercier ici et qui ont donné par exemple en moyenne 25 euros. Il y a une personne qui a voulu être anonyme et qui a fait un don exceptionnel de 10 000 euros. Il y a des amis de l'EPI qui aiment l'EPI parce qu'ils en ont été au bénéfice ou qui nous voient de loin et qui disent c'est important d'avoir une église qui développe tous ses ministères et j'ai envie de les soutenir. Alors je voudrais le dire et je voudrais vous associer à ce remerciement, dire un grand merci à toutes celles et ceux qui sont en train de donner, qui mesurent qu'on est à un moment clé de notre histoire d'église. Est-ce qu'on pourrait, ils sont en ligne, ils nous suivent souvent les amis de l'EPI, est-ce qu'on pourrait les remercier pour tous les dons qu'ils ont donnés? Vous qui nous suivez en ligne, et vous pouvez aussi le rappeler aux amis de l'EPI, à vos amis, vos proches, les personnes qui sont autour de vous dans votre cercle, que l'église de l'EPI peut bénéficier de réductions d'impôts. 66% du montant de votre don pour vous qui êtes particulier, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Par exemple, si vous donnez 500 euros, votre don ne vous coûtera qu'à la fin que 170 euros après réduction fiscale. Pour les entreprises aussi, pour vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur ou autre, vous avez aussi des réductions. On peut bénéficier, l'Église, de réductions d'impôts sur les sociétés de 60%. Toujours intéressant pour les personnes, parce que quand moi j'ai partagé autour de moi, chez Crémont-Pierre aussi, c'était pareil, les gens ont dit, est-ce que vous êtes déductible d'impôts? Est-ce que vous délivrez des reçus fiscaux? Donc, c'est une information que des personnes qui voudraient donner, voudraient avoir. Donc, n'hésitez pas, quand vous partagez autour de vous le projet, de leur dire qu'on peut délivrer des reçus fiscaux. Et toutes les formalités sont sur le site Eloasso. Donc si vous avez un doute sur comment ça se pratique, sur le site Eloasso, vous avez toutes les informations, tout vous est expliqué. Je voudrais aussi rappeler que l'Église de l'EPI, en tant qu'association de droit local et avec exclusivement cultuel, peut bénéficier de legs aussi. On en parle peu et on m'a encouragé, plein de personnes m'ont encouragé quand on leur présente le projet à parler de cela. On est habilité à pouvoir recevoir des legs. C'est un autre moyen de soutenir l'Église. C'est dans un temps et ça vous permettra de continuer à bénir l'Église et de différentes manières, notamment par le biais des legs. Il y a des personnes de l'EPI qui ont fait des legs et au moment de rejoindre le Seigneur, ça a été à des timings tellement bénissants et je veux remercier toutes les familles dont les personnes ont pu faire des legs parce que ça nous a vraiment bénis, ça nous donne aussi de pouvoir continuer à être l'Église qu'on souhaite être ensemble. Concrètement, pour finir ce temps avec vous, sur ce petit point au bout de 30 jours, priez. Et le jeûne et prière va nous servir à continuer de prier Dieu. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et pour que les ouvriers soient formés, pour que les ouvriers soient missionnés, il est important que l'Église soit en bonne santé, que l'Église ait les bons environnements, les bons outils pour pouvoir impacter une ville comme Strasbourg et impacter la région. Il y a possibilité toujours de donner. Vous nous visitez ce matin et vous êtes bénis d'être présent. Vous pouvez aussi donner par le biais de la page Eloasso. On a aussi des RIB dédiés pour le projet immobilier. Vous pouvez aussi faire un don de ce côté-là. Et puis surtout pour nous, Église, vu que nous ne sommes pas le public cible de cette campagne dans cette première étape, mais on est plutôt des relais pour partager autour de nous des points de chute. N'hésitez pas à relayer tout ce que l'on va vous partager dans la communauté WhatsApp, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, Facebook ou autre, c'est un moyen et il y a des personnes qui nous ont répondu, on a eu des commentaires par ce biais-là et on voit que ça ne laisse quand même pas indifférent. Alors on prie que Dieu pourvoie, que Dieu bénisse. On croit vraiment qu'après toutes ces années, Dieu veut qu'on puisse continuer à être des espaces de rencontre. Amen. Amen. Alors un grand merci à vous, Église, pour cet effort qui est là. La campagne continue, on va continuer à communiquer et que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste prendre le temps de prier pour cette campagne. Dieu connaît nos défis, Dieu est le Dieu de la provision, nous le croyons aussi. Seigneur, merci pour ce démarrage. Merci pour la générosité de toutes ces personnes qui, dans l'anonymat, qui, dans le secret, encouragent l'Église. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité toutes ces années. On a traversé tellement d'étapes différentes dans l'histoire de notre église locale. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais l'Éternel nous a toujours secourus, toujours. Aide-nous à continuer à annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Aide-nous, tant qu'il fait jour, à continuer de prêcher l'Évangile, d'équiper, de former des disciples, de prendre soin du plus petit comme du plus grand. Seigneur, on veut croire que tu n'en as pas fini, que tu souhaites qu'on soit une lumière pour éclairer et bénir toutes les nations qui vivent ici à Strasbourg. Donne-nous un cœur comme le tien aussi, Seigneur, et merci de nous accompagner dans cette campagne de levée de fonds. Amen. Amen. Merci à vous. Attention, une question prophétique, la révélation des révélations pour vous ce matin. Qui adores-tu ? Qui adores-tu vraiment ? Que l'on soit croyant, que l'on ne soit pas croyant, chacun de nous consacre son cœur à quelque chose ou à quelqu'un. Peu importe que tu aies la foi, peu importe que tu sois athée, que tu sois agnostique, toi et moi, nous avons au moins un objet, un être, une valeur, une idée, une pensée, un objectif que nous plaçons au centre de notre vie. Tous, croyants ou pas, nous vénérons quelque chose ou nous vénérons quelqu'un. Chacun de nous, on porte son adoration vers quelqu'un ou quelque chose. Et ce constat que l'humain porte une dévotion envers quelqu'un ou quelque chose, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. L'objet de l'adoration de l'homme l'a toujours accompagné sur tous les continents et dans toutes les époques de son histoire. Il n'y a pas un continent plus adorateur qu'un autre. L'Afrique n'est pas plus adoratrice que l'Europe. On adore tous quelque chose ou quelqu'un. La question, c'est qui adorons-nous ? À partir du moment où on commence à avoir un petit peu de bouteille, hein, un petit peu de vécu, on va arriver à cette conclusion aussi, nous. Chacun va employer ses mots. Certains vont parler de hobby, de centre d'intérêt. Certains vont parler de ma passion. D'autres vont parler de mon adoration, ma mission, mon objectif de vie. Mais ils vont dire tous la même chose. Nous offrons toutes et tous une dévotion à quelqu'un ou à quelque chose. Moi, j'ai été passionné et j'ai porté ma dévotion sur plusieurs personnes au cours de ma vie et sur plusieurs choses. Par exemple, sur Bob Marley. Qu'est-ce que j'ai aimé Bob Marley ? J'ai aimé sa musique. Et en aimant sa musique, je me suis intéressé à ce qu'il disait ou ce qu'il prêchait. Et puis son style de vie, son modèle de spiritualité, son humanisme, tout ça a commencé à me parler. Je commençais à acheter les albums, parce qu'à l'époque, on achetait des CD en physique. Maintenant, on va sur Spotify ou Deezer, pardon pour la promo. Mais on en est tous là. Et moi, Bob Marley, j'ai commencé à même mettre des posters. Parce que j'aimais son style de vie, j'aimais ce qu'il incarnait. Le cannabis. Pour celles et ceux qui connaissent mon témoignage, vous savez qu'à un moment donné dans ma vie, le cannabis est devenu l'objet de mon adoration. C'était même plus fort pour moi d'aller fumer un joint que de traîner avec ma famille, traîner avec des potes ou même traîner avec une fille. Et puis dans mon parcours de vie aussi, la fameuse petite amie qui prend toute la place. Place de la famille, place de tes études. Tout en bourgeonnement. Puis t'es plus cohérent, tu passes du logique à l'illogique. Et à un moment donné, eh ben, ça m'a aussi fait du tort. Surtout quand on tombe dans des relations toxiques. Il y a plusieurs philosophes, il y a plusieurs historiens, il y a plusieurs théologiens qui sont croyants ou pas, qui ont travaillé sur cette question de l'adoration à quelqu'un ou à quelque chose. Et je vais n'en citer que deux qui font le même diagnostic, mais ne proposent pas, les mêmes traitements de fond. Je vais citer en même temps Sigmund Freud et Calvin. Bienvenue à l'église de l'Épi ce matin. L'église où on est capable d'apprendre de n'importe qui, mais pas n'importe quoi. Sigmund Freud disait ceci, c'est un psychanalyste, un neurologue, il disait ceci, « La religion serait la névrose obsessionnelle universelle de l'humanité. Comme celle de l'enfant, elle dérive du complexe d'Œdipe, des rapports de l'enfant au père. Une névrose obsessionnelle universelle. La religion, l'adoration, la recherche de quelque chose qui transcende. La vision de Freud est que l'adoration, qu'elle soit religieuse ou non, est un phénomène universel lié à des failles qu'il peut y avoir en nous. Jean Calvin, dans son Institution de la religion chrétienne, dit ceci, « Le cœur et l'esprit de l'homme sont une forge perpétuelle d'idoles. » Une forge perpétuelle d'idoles. Pour Calvin, le cœur de l'homme est une usine à idoles. Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et notre humanité est cette forge d'idoles à volonté. On se crée plusieurs idoles et ça n'arrête pas. L'un va proposer une foi alternative à la foi chrétienne, à la foi dans un Dieu. Il va plutôt miser sur la foi de la raison humaine, une foi dans les capacités de l'homme seul et excluer complètement Dieu. L'autre, Calvin, affirme qu'on ne trouve pas la liberté sans Dieu, mais en revenant à Dieu. Après, chacun fait son choix, sachant que nous avons tous cette capacité continue à produire des objets ou des personnes comme objets d'adoration, comme des personnes qu'on va finalement adorer. Est-ce qu'en 2025, est-ce que ça a un peu changé? Est-ce que l'humanité a un peu changé sur cette dévotion qu'on porte à un objet, à une personne, à des valeurs, à des objectifs ou ne sais-je? En 2025, c'est encore plus visible que jamais dans le réel. Alors qu'en 2021, selon l'INSEE, 51% des 18-59 ans qui étaient sondés se disent sans aucune appartenance religieuse, 51% des Français, sans aucune appartenance religieuse. En 2024, l'IFOP révèle que 59% des Français croient à la voyance et à la cartomancie. Donc plus d'appartenance religieuse, par contre on croit dans l'ésotérisme, on croit dans le surnaturel, on croit dans le monde invisible. Et beaucoup, selon les études, ont franchi le pas. Un Français sur six a déjà consulté un voyant. Ces chiffres sont en constante augmentation depuis une vingtaine d'années selon les analystes et c'est un signe d'un engouement qui ne s'essouffle pas. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont les jeunes qui sont les plus intéressés par les arts divinatoires. Et ça, je l'ai constaté quand, pour une énième fois, j'ai essayé d'aller sur la plateforme TikTok. Mais elle est dure à rester dessus. Moi, je ne sais pas la passion qu'on voue à TikTok. J'ai du mal à rester dessus. Mais pour pouvoir vivre mon expérience sociale et voir pourquoi il y a autant d'attrait, et surtout parler de quelque chose que finalement, du coup, je connais, eh ben, du coup, quand j'y vais, je n'ai pas attendu 2-3 swipes pour voir qu'il y avait déjà une première personne qui parle de croyance. Puis encore 2-3 slides, et puis là, il y a un live de quelqu'un qui va parler aux morts. Et 2-3 slides, etc., etc., etc. 78% des 18-24 ans croient à la voyance et sont pour la majorité influencés par les Instagrammeurs et les TikTokers qui n'hésitent plus à avouer qu'ils ont déjà consulté un médium, etc., etc. On estime à 50 000 le nombre de voyants en France, dont beaucoup sont sur les réseaux sociaux. C'est aussi la porte ouverte à beaucoup d'arnaques. Et chaque année, on compte en moyenne plus de 3000 signalements par an. Bah oui, les ténèbres ne vont pas produire la lumière, les ténèbres vous emmèneront toujours dans les ténèbres. La recherche spirituelle n'est pas en déclin, bien au contraire. Et c'est ce qui me fait dire que la Bible, les amis, reste encore aujourd'hui l'ouvrage ancien le plus pertinent pour notre époque moderne. La Bible est la réponse pour les besoins spirituels d'aujourd'hui. Et quand un chrétien médite sur ces questions profondes, qui touchent à quel est l'objet de mon adoration, quels sont les objets de mes dévotions, il y a des récits dans la Bible qui sont tout à fait remarquables. Ils sont tout à fait pertinents pour nous aujourd'hui, pour nous conseiller, pour nous éveiller, pour nous montrer et nous éveiller à des réalités spirituelles qui ont un impact réel, positif ou nocif sur nos vies. Et sur le sujet de l'adoration de quelque chose ou de quelqu'un, l'apôtre Paul est un communicant par excellence. Il a non seulement écrit sur le sujet, mais vous allez voir aussi qu'il a expérimenté. C'est quelqu'un qui sait écrire théologiquement ce qui se passe dans le monde spirituel, mais qui sait aussi le vivre dans le réel, en prêchant l'évangile, en priant pour les gens, en discernant le combat spirituel, en priant pour des gens possédés, les personnes étaient libérées, ou en interpellant celui qui ne croit pas et qui se tourne à un moment donné vers Dieu. Paul est un homme de terrain. C'est un homme qui est passionné par le dialogue, passionné par le débat. Il est passionné à parler, à communiquer avec toutes sortes de personnes qui sont en recherche spirituelle ou pas. Et dans la première partie de sa vie, on voit déjà qu'il est passionné spirituellement. La première partie de sa quête spirituelle, on découvre un Paul qui est un juif pieux, un érudit, qui appartenait à un courant théologique respecté qu'on appelait les pharisiens. Il a longtemps cherché à empêcher la propagation de la foi chrétienne qu'il considérait comme une secte. Donc pour lui, sa passion, son adoration, à un moment donné, il était prêt à le défendre de tout son cœur pour qu'elle ne soit pas perturbée, qu'elle ne soit pas mélangée, qu'elle ne soit pas agressée par d'autres courants de croyances. Mais tout va changer lorsqu'à un moment donné, il va rencontrer spirituellement Jésus-Christ. Paul va devenir à ce moment-là un chrétien engagé. Il va être déterminé à partager sa foi partout et surtout auprès des nations non juives. Et c'est comme ça qu'à un moment de sa vie, il va se retrouver à Athènes. Et là, il va découvrir que Athènes, c'est une ville qui adore absolument tout. C'est une ville idolâtre par excellence. Ils adorent tout le monde, sauf le vrai Dieu. Et c'est dans ce contexte que Paul nous invite, comme il a invité les Athéniens à ce moment-là, à réfléchir sur cette question d'actualité. Qui ou qu'est-ce que tu adores vraiment ? Et ce message n'est pas que pour quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus. Ce message, il est pour chacune et chacun d'entre nous, disciples de Jésus. Parce que tant que nous serons dans ce corps mortel, il y aura un combat en nous entre faire le bien qu'on n'arrive pas à faire et faire le mal qu'on fait et qu'on ne veut pas faire. Il y a cette tension en nous. C'est pourquoi nous devons garder notre maison. C'est pourquoi le chrétien est appelé au discernement, à la vigilance spirituelle. Les principes qui vont être développés dans un instant ne sont pas que pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais elles sont aussi pour celles et ceux qui connaissent Jésus. Et nous, on appelle ça la sanctification, le fait de se mettre à part, de se consacrer à Dieu. Je vous emmène avec moi dans la lecture de Actes chapitre 17, à partir du verset 16. Actes chapitre 17, verset 16. Paul fut bouleversé jusqu'au fond de l'âme en voyant à quel point Athènes était remplie d'idoles. L'indignation s'empara de son cœur. Dit autrement, là il est chaud. Il est chaud. Il est prêt là. On sent que les ailes de la maison de Dieu le dévorent à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, vous voyez ? C'est le genre de chrétien qui ne va pas te lâcher à ce moment-là. Il est investi d'une mission. Verset 17. Il saisit l'occasion d'en parler à la synagogue. Il va dans les lieux où on parle religion, où on parle de foi, avec les juifs et les autres gens convertis au judaïsme. De plus, il en discutait chaque jour sur la place publique avec les premiers venus qu'il rencontrait. Il tomba, entre autres, sur des philosophes épicuriens et stoïciens qui l'entreprirent et engagèrent une discussion assez serrée avec lui. Là, c'est gentil, hein, mais ça veut dire que c'était très chaud le débat. Je pense pas que Paul, c'était un des gars qui se laissait faire en débat, et je pense pas que les autres en face, ils se laissaient faire, parce que c'était la coutume, c'était le sport national que de débattre et de manière très, très, très forte. Il y avait une culture du débat, que malheureusement, on a un peu perdu, nous, mais il y avait une vraie culture du débat. Verset 19. Ils décidèrent de l'emmener à l'aéropage, devant le conseil de la cité. Là, ça devient sérieux, on commence à rencontrer les responsables. Pour lui demander des explications. Pourrions-nous savoir au juste en quoi consiste ce nouvel enseignement que tu propages ? Tu parles de choses étranges qui nous paraissent originales. On est souvent, nous, marginalisés, les chrétiens, hein, c'est pas nouveau. Hein. Tu parles de choses étranges qui nous paraissent originales. Nous voudrions bien savoir ce que tout cela signifie et de quoi il s'agit. Verset 22. Paul, debout au centre de l'aéropage, commença. Citoyen d'Athènes. J'ai pu constater de mes propres yeux que vous êtes à tous égards très soucieux d'honorer les divinités. Vous êtes très religieux, vous êtes très croyants, vous êtes certainement les plus religieux des hommes. Et là, il commence tout un message pour expliquer à celles et ceux qui sont en train de l'écouter, je reconnais que vous êtes des assoiffés spirituellement. Votre âme est assoiffée, votre âme a soif. On n'a pas de données exactes, mais plusieurs auteurs, notamment les auteurs satyres de l'époque, écrivaient sur Athènes. Et certains disaient qu'elle comptait, au 1er siècle, environ 30 000 idoles. Il y a même des satyres qui disaient « il y a 3 idoles pour un habitant », ils disaient. Tellement c'était présent l'idolâtrie dans la vie quotidienne. Et la Bible définit l'idolâtrie comme le fait d'élire un autre maître, une autre autorité que Dieu, le Dieu que prêche Paul, le Dieu de l'Évangile, pour diriger son cœur et sa vie. On va élire un autre maître, une autre autorité que Dieu. Idolâtrer, c'est placer une personne, une chose ou une idée au centre de sa vie et de son cœur, c'est-à-dire en faire un repère, en faire un modèle, en faire une autorité dans nos choix, en faire nos valeurs à la place de Dieu, à la place des valeurs de Dieu, à la place de l'autorité de Dieu. Et cela peut être un objet matériel, l'argent, le bijou, de la technologie, des possessions, des statuts pour l'époque. Ça peut être une personne, ça peut être un conjoint, ça peut être un leader, ça peut être une célébrité, ça peut être une pulsion, une habitude, le pouvoir, le plaisir, la réussite, des addictions. Ça peut être une idée ou un idéal, des idéologies, le perfectionnisme par exemple, le culte de l'apparence ou autre. Et nous ne sommes peut-être pas des adorateurs de statues, comme l'étaient les Athéniens, mais nous adorons tous et toutes quelque chose ou quelqu'un. Les Athéniens adoraient une multitude de divinités, dont les plus importantes par exemple étaient Zeus, le roi des dieux. Et il est souvent représenté par des statues imposantes, comme une figure d'autorité. Et là, ça nous parle, peut-être que certains ont des idoles concernant l'autorité. Certains aiment exercer l'autorité. Vous aimez tellement exercer l'autorité, le pouvoir, la prestance sur les autres que c'est devenu votre idole. Tandis que d'autres recherchent après des figures d'autorité, au point d'en faire de quelqu'un un dieu, parce que j'ai besoin d'un repère d'autorité, j'ai besoin d'un père, j'ai besoin d'une mère, j'ai besoin d'un guide spirituel, j'ai besoin d'un leader spirituel, j'ai besoin d'un prophète, j'ai besoin d'un pasteur, j'ai besoin de quelqu'un. Et en fait, vous êtes en train de faire un culte de l'autorité de quelqu'un et ça devient votre idole. Et là se forme une forme de dépendance affective, toxique. Apollon, le dieu de la lumière et des arts. Il y a certains artistes qui peuvent devenir des dieux pour nous. La soif de briller peut devenir un dieu pour nous. La soif de briller au travail, de briller dans ta famille, de briller à l'église, de briller, peu importe. La soif d'être reconnu, la soif d'être le centre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction à briller, à être sous le feu des projecteurs. Ou alors, moi j'ai rencontré des personnes qui étaient complètement addictes à certains arts. Bon, tu peux plus rien dire sur cet art-là. Dès que tu dis un truc négatif, tu te fais insulter direct. Parce que cet art, cet artiste, cette personnalité, cette célébrité est devenue une idole. Artémis, la déesse de la chasse et de la nature. Qui croit que la pêche au carnassier peut devenir une idole si on ne fait pas attention? Ben oui, avant de prêcher aux autres, il faut qu'on se prêche à nous-mêmes. Hein, mais quelque part, aujourd'hui, on voit quand même des idéologies où les animaux peuvent devenir des dieux et devenir l'égal des hommes. Et parfois, on a un rapport qui devient déséquilibré. Oui, on n'adore pas des statues, mais parfois, on adore des idéologies, on adore des animaux. Dionysos, le dieu du vin et le dieu de la fête. L'alcool, la fête, la débauche, la dépravation, la double vie. Il y a une différence entre s'amuser et se dépraver. Et à un moment donné, c'est peut-être pas une statue qu'on adore, mais tous les samedis soirs, tu as besoin de sortir, tu as besoin d'aller dans des endroits, et à un moment donné, ça devient des lieux où tu adores des pratiques, tu te soumets à certaines pratiques. Là, c'est plus de l'amusement, c'est plus du loisir, c'est de l'idolâtrie. Héra, le mariage. Parfois, il y en a, ils idolâtrent leur mariage. Et quand il se passe quelque chose dans leur mariage, ou si le conjoint ou la conjointe à un moment donné a failli, tout s'effondre parce qu'on a idolâtré son mari, on a idolâtré son épouse, on a idolâtré le mariage. Combien parfois nous sommes tombés parce qu'on disait « Ah, ce couple-là, quel modèle !» Et on les a élevés, et à un moment donné, ce couple-là se sépare et tout s'effondre. Parce qu'on met le mariage, on met les gens à une place qui n'est pas leur bonne place. On les idolâtre. Hermès, le dieu du commerce, l'argent, la moula, bex, glana, geld, ça c'est en alsacien, hein, geld, en allemand plutôt, geld, le bitcoin, l'Ethereum. Le commerce peut devenir une idole. Aphrodite, l'amour, le dieu de écoute ton cœur, c'est l'amour ça. Écoute ton cœur, combien se sont cassés la figure en écoutant leur cœur. Arès, le dieu de la guerre, le dieu de la bataille, le dieu du conflit. Il y a des gens, Arès est devenu leur idole. Ils sont obligés de se construire en opposition. Ils sont obligés de se construire en étant en conflit avec toi. Ils sont obligés qu'il y a toujours un problème et un conflit et quelque chose qui est là. Parce que quelque part en eux, cette colère est devenue leur idole. La notion de bataille, la notion de venir chercher, de venir pousser, c'est plus juste pour faire avancer. C'est devenu ton idole. En plus de toutes ces idoles et de tout ce qu'elles représentent, pour ça je vous dis, on n'adore pas, nous peut-être, des idoles de matière, mais on peut adorer plein d'autres choses. Et en plus de toutes ces idoles qui étaient courantes à Athènes, qui étaient faites de main d'homme, il y avait d'autres formes idolâtres. Un peu plus philosophiques, on l'a lu, hein, c'était le verset 18. Les épicuriens. Les épicuriens pensent que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux, mais tout le monde veut être heureux, donc moi je suis aussi épicurien en vrai. Être heureux et de profiter des petits plaisirs. Mais voilà le problème. L'épicurisme et l'évangile, c'est deux choses différentes. Laissez-moi vous le démontrer ce matin. L'épicurien va dire « la vie vise le bonheur personnel, l'évangile vise Dieu et son règne éternel ». Dieu ne nous a pas appelés juste pour notre bonheur éternel à nous, mais pour qu'on puisse être des serviteurs du Dieu très haut aussi. Et on vise Dieu, on vise son règne. Pour nous, ce qui est important, c'est le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont livré leur vie. Ils sont morts pour l'évangile. Donc le but de l'évangile, ce n'est pas juste mon bien-être. Le but de l'évangile, c'est que le royaume continue d'avancer. Et si le royaume continue d'avancer, alors ma famille peut être touchée par l'évangile. Mes proches peuvent être touchés par l'évangile. Cette ville peut être touchée par l'évangile. Ma nation peut être touchée par l'évangile. Mes collègues peuvent être touchés par l'évangile. Peut-être par moi, mais peut-être par quelqu'un d'autre. Parce que quand j'investis, quand je vise le royaume plutôt que moi-même, ben c'est tout le monde qui gagne. Et toute la gloire revient non pas à un homme, mais revient à Dieu. Merci beaucoup pour l'encouragement, c'est gentil. L'épicuriste va dire le plus grand bien, c'est le plaisir. L'évangile va dire le plus grand bien, c'est Christ, c'est la présence de Christ en moi. L'épicuriste va dire Dieu est lointain s'il existe. La Bible dit pour toi ce matin, Dieu est prêt, Dieu est impliqué, Dieu est ressuscité, Dieu est vivant. Dieu est là, Dieu est, est l'autorité, Dieu est le juge suprême. Il agit dans ce monde, il agit dans ta vie. L'épicuriste va éviter la souffrance. L'évangile va te dire, prends ta croix. Le but pour l'épicurien, c'est d'éviter les troubles. Le but pour le chrétien, c'est d'être transformé même par la souffrance. Je le redis, celle-là est trop bien, elle me pique. L'épicurien va éviter les troubles. Le chrétien cherche à être transformé à l'image de son Seigneur. Et s'il doit passer par l'épreuve pour être semblable à Jésus, ça va être dur, on va pleurer, on en aura marre. Mais nous, on veut ressembler à Jésus-Christ. Christ est notre vie. Les stoïciens, toujours dans le même verset qu'on a lu, eux, ils pensent qu'il faut être courageux. En fait, en gros, c'est moi, moi, moi. Il faut être courageux, il faut rester calme, il faut contrôler ses émotions. Même si c'est difficile. Le stoïcisme va dire ceci, le salut vient par l'autodiscipline et par la sagesse humaine. L'évangile dit que le salut vient par la grâce et tu n'y peux rien du tout. Tu pourras faire les œuvres que tu veux, la maîtrise de toi que tu veux. Tu as besoin de Dieu, tu ne pourras pas te sauver toi-même. Le stoïcisme va dire que Dieu, c'est un principe relationnel qui est impersonnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intimité possible avec Dieu, alors que l'évangile dit que Dieu est un Dieu qui est personnel, qui veut se révéler à ton cœur, à toi. Parce que Jésus-même s'est incarné pour que tu puisses comprendre qui est Dieu. Et comme on est des êtres humains, on avait du mal à comprendre ce concept de qui est Dieu. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, on voit le cœur de Dieu vivre sur la terre des hommes. C'est ça qui nous aide à avancer. C'est que quand on est perdu, on regarde à Jésus et on découvre le cœur de Dieu au travers de la vie de Jésus. Le stoïcisme, en parlant de la souffrance, dit qu'il faut accepter le destin. Le chrétien, lui, va dire « la souffrance peut être rédemptrice ». Et souvent, un des collègues pasteurs dit « ce qu'on n'apprend pas par l'obéissance, on l'apprend par la souffrance ». Le stoïcisme va dire « être fort par soi-même ». Et le chrétien et l'évangile vont dire « ma force ne vient que de Jésus-Christ ». Donc les épicuriens, ils adorent le plaisir, les stoïciens adorent l'effort et la réussite humaine. Le chrétien appelle à adorer Dieu qui est vivant et qui est ressuscité. Vous savez, certaines de nos recherches, nos loisirs, ce ne sont pas des vices en soi. Et nous, on aime cet équilibre. On aime, nous, à l'épi, de pas systématiser, de pas juste enfermer. Et puis c'est tellement simple d'enfermer dans des boîtes. Être un bon chrétien, c'est ça, être un mauvais chrétien, c'est ça, etc. Non. Nous, on ne veut pas tomber dans ce piège-là. Et c'est pour ça que je le redis, certaines de nos recherches, certains de nos loisirs ne sont pas un vice en soi, mais ils peuvent devenir de mauvais maîtres s'ils deviennent des idoles dans notre vie. Là est la nuance. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'Église, on va vous appeler, vous aussi, comme nous, on en a besoin, à grandir dans la sagesse et dans la maturité spirituelle. Je ne pourrai pas faire le travail à votre place, vous ne pourrez pas faire le travail à ma place. Nous avons tous besoin d'avoir cette soif de mûrir spirituellement et de trouver quand on est fort et quand on est faible. Il y a certains domaines où moi je vais être fort alors que mon frère ou ma sœur va être faible. Alors je ne vais pas être une occasion de chute pour elle. Mais il y a des fois, moi je suis faible. Et je vais le partager aussi, de dire, dans ce domaine-là, moi j'aime pas ces endroits-là, ça me renvoie à des choses, je vais pas inviter la personne dans les endroits qui la fragilisent. Mais je vais pas enfermer, parce que là c'est fait que moi, j'ai pas les mêmes combats, c'est pas les mêmes enjeux, et je vais enfermer tout le monde dans une même boîte. Donc je le redis, certaines de nos recherches, comme les loisirs, ne sont pas un vice en soi, mais ils peuvent devenir de mauvais maîtres s'ils deviennent une idole. Et nous devons être solides et sérieux dans notre foi chrétienne pour découvrir si telle chose ou telle chose est une idole dans ma vie. L'idolâtrie consiste à transformer un bon don en un dieu. L'idolâtrie, tout le concept de l'idolâtrie, c'est de transformer quelque chose qui peut être bon en un dieu pour ta vie. Laisse-moi te dire que l'idolâtrie, elle détériore ta vie intérieure. L'idolâtrie détériore ta vie intérieure et détériore ma vie intérieure. L'idolâtrie a plusieurs méfaits pour nos vies, plusieurs conséquences, des conséquences spirituelles, émotionnelles et sociales. L'idolâtrie nous sépare de Dieu. L'idolâtrie nous appauvrit spirituellement. Quand Dieu n'est pas au centre de ma vie, qu'il n'est pas mon repère, mon modèle, mon autorité, ça va commencer à me détourner tranquillement de Dieu et d'une relation avec Dieu. Ça va bloquer ma croissance spirituelle. Ça va m'empêcher de vivre une vie spirituelle de liberté, de paix, de restauration en Jésus. On peut idolâtrer un coup de foudre. Il y a quelques années ici, un don spirituel avait été donné. Et j'avais reçu cette image d'une personne qui s'était menottée la main gauche avec la main droite, puis la main droite avec la main gauche. Elle avait la clé entre les mains et elle avait jeté la clé. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette vision? Mais je l'ai quand même partagée. Et il y avait cette pensée de dire, tu penses être maître de ta vie avec les choix que tu fais, mais tu es en train de te rendre esclave de quelqu'un. Dans la semaine, une personne prend rendez-vous avec nous. Et dans l'entretien pastoral, cette personne me raconte qu'elle a rencontré quelqu'un, coup de foudre, et elle a commencé à avoir une relation toxique. Et elle disait, oh, l'Éternel me secourra, jusqu'au point où elle a été sous la coupe de cette personne. Et elle n'arrivait plus à s'en sortir. Et là, Dieu a tendu sa main pour qu'elle puisse sortir de là, pour qu'elle puisse couper. Parce qu'elle avait peut-être plus les clés, mais Jésus avait les clés. Jésus avait les clés. L'idolâtrie nous sépare de Dieu, nous appauvrit spirituellement. L'idolâtrie nous rend dépendants et esclaves. C'est une réalité. On peut idolâtrer la réussite de quelqu'un et ça peut générer du stress, ça peut générer de l'anxiété, ça peut générer du perfectionnisme. Et on peut même être obsédé, une obsession malsaine. Et on est esclave de « il faut que j'aille plus loin, il faut que je fasse plus de moulards, il faut que je fasse plus de ceci, cette personne-là, il faut que je la dépasse. » Et on idolâtre la réussite. Et surtout ceux qui sont dans l'auto-entrepreneuriat, ceux qui ont des responsabilités, des postes à responsabilité, faites attention à ne pas idolâtrer la réussite. Faites attention. L'idolâtrie sème en nous des idées fausses de sécurité et de valeur. Tu commences à placer ta confiance dans ce qui est instable quand tu idolâtres par exemple l'argent, le pouvoir, l'image, la réputation, au lieu d'adorer Dieu. Cela va créer encore une fois de la peur, de l'insatisfaction, de la frustration, du stress. Beaucoup de chrétiens sont fatigués, chargés, non pas parce qu'ils se sont éloignés de Dieu, mais parce qu'ils sont en train de courir après des idoles. L'idolâtrie impacte nos relations les uns avec les autres. Ça peut générer des rivalités, des jalousies, de la manipulation. Même en église, il peut y avoir de la manipulation. Même en église. Et nous, en pastorat, on a dû à gérer des choses malheureuses. On peut idolâtrer un chrétien qui ramène plus de personnes que toi à la foi. Idolâtrer un pasteur, idolâtrer un prophète, idolâtrer un influenceur du moment. Et ça peut générer des conflits parce qu'on commence à mettre les chrétiens en concurrence alors qu'on est censé être une famille. Et quand un gagne, c'est tout le monde qui gagne. Quand un avance, c'est tout le monde qui avance. Mais non, à un moment donné, on se crée des idoles de concurrence, des idoles de rivalité. Et à chaque fois que l'Église est divisée, quand vous revenez à l'origine du problème de la division, vous allez voir qu'on a idolâtré en général un ministère, une personne. Enfin, l'idolâtrie a des conséquences communautaires sur le pays, notre pays de France. Et peut-être qu'on est autant divisé parce que notre pays court après beaucoup trop d'idoles, mais aussi en Église. Dans l'Ancien Testament, les nations idolâtres étaient souvent décrites comme divisées, corrompues ou moralement fragiles, à commencer par Israël. Malheureusement, parfois, Israël est tombé dans l'idolâtrie. Et Jérémie, le chapitre 2, verset 13, dit « En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, se sont tournés vers l'idolâtrie, moi qui ai une source d'eau vive, pour se creuser des citernes. » Mais des citernes qui sont fissurées, qui ne retiennent pas l'eau. Et quand on est dans l'idolâtrie, dans un premier temps, on pense que ça fait du bien. On n'est pas en train de se rendre compte que tout est fissuré, qu'on est en train de se vider, qu'on est en train de mourir intérieurement. C'est ça le piège de l'idolâtrie quand on tombe dedans, le piège du péché. C'est qu'au début, on goûte et on dit « c'est bon ». Et en fait, on est en train de mourir à petit feu. Mourir à petit feu. Et les Athéniens, comme nous, on n'échappe pas à cette réalité de l'idolâtrie. Et du coup, je voudrais juste lire ce que Paul prêche. Parce que Paul, et je pense que c'est toi qui l'as dit, Raymond Pierre, à un moment donné, Dieu nous invite à le chercher. Acte 17, verset 23. En parcourant les rues de votre ville, Paul dit ceci. En parcourant les, villes de notre, les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai découvert entre autres un autel portant comme inscription à un Dieu inconnu. Eh bien, précisément ce Dieu que vous révérez ainsi sans le connaître, moi je viens vous l'annoncer. Et l'église de l'Épi annoncera et annoncera toujours ce Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, c'est Jésus-Christ. On ne changera pas notre message, on sera centré sur le message du Christ. Voilà ce que Paul dit. C'est le Dieu qui a créé l'univers et toute la multitude d'êtres qui le peuplent. Il est le créateur. Il est celui qui a façonné, qui a mis en musique toute la création. Il est le Seigneur. Il est l'autorité. Il est le maître du ciel et de la terre. Il est au-dessus de toutes les idoles. Il est au-dessus de tout ce que j'ai dit ce matin. Il est au-dessus. Il n'habite donc pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Rien ne lui manque. Dieu n'a pas besoin d'être nourri. Toutes les idoles que nous avons ont besoin d'être nourries de notre temps, de notre argent. Mais Dieu, il n'a pas besoin de nous. C'est ce qui fait que quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, ça existe. Dieu n'est pas dépendant de nous, nos idoles sont dépendants de nous. Mais Dieu, lui, n'est dépendant de personne. Ce qui fait de Dieu le seul vrai Dieu. Rien ne lui manque. Il n'a donc pas besoin de se faire servir par les hommes. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, l'air qu'ils respirent et tout le reste. Il invite les hommes à le chercher. Il voulait qu'ils s'efforcent de le découvrir comme à tâtons et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui, car en réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Église, est-ce qu'on peut le proclamer, dire « Dieu n'est pas loin de chacun de nous ensemble, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. » Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Verset 28, « En effet, c'est en lui que nous vivons, c'est en lui que nous agissons, c'est en lui que nous existons. C'est bien ce que certains de vos poètes ont reconnu. » Vous allez vous rendre compte en lisant la Bible que parfois, les auteurs de la Bible vont prendre des auteurs païens pour faire leur point concernant l'Évangile. Il faut être culturellement pertinent. Il y a des choses dans notre société, Jérôme a fait un excellent message là-dessus, Jérôme Cantelberg, sur comment l'Église peut s'emparer de la culture d'aujourd'hui pour annoncer l'Évangile. Mais là, il va citer un auteur, un poète, pas chrétien. Et le poète dit ceci, « Nous aussi, nous sommes de descendance divine. » En gros, nous aussi, il y a quelque chose de divin qui brûle en nous. Et Blaise Pascal, un mathématicien, un physicien, un inventeur, un philosophe, en s'inspirant de la Bible, va dire cette phrase célèbre, « Il y a un gouffre infini dans l'homme. Il y a un gouffre infini dans l'homme que seul Dieu peut combler. » Mon ami, je ne sais pas comment tu es venu dans ce lieu, que tu sois croyant ou pas, chrétien ou pas. Il y a un gouffre infini en toi que seul Dieu peut combler. Verset 19. Si donc nous sommes de descendance divine, c'est-à-dire possédant une vie intérieure spirituelle, une âme, comment pouvons-nous imaginer que la divinité puisse se présenter par des statues en or, en argent ou en pierre, sculptées par les mains d'un artiste au gré de son imagination ? Mais Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps d'ignorance. Dieu ferme les yeux sur tes temps d'ignorance spirituelle. Sois libéré de la culpabilité que Satan voudrait te mettre alors que tu as pratiqué ou tu es allé vers des idoles. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mon ami. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance où les hommes ne savaient rien de lui. Aujourd'hui, par contre, il faut annoncer à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent changer. On doit annoncer que l'homme doit se repentir. Et se repentir, c'est quoi ? Se repentir, c'est abandonner les idoles de sa vie. C'est abandonner le péché. Ne plus se mettre au centre de sa vie soi-même. C'est reconnaître. Se repentir, c'est reconnaître notre besoin que Dieu prenne toute la place dans notre vie, aujourd'hui et pour l'éternité. Et voici comment on met Dieu au centre de sa vie. C'est le verset 31 qui nous le dit. En effet, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice. Et il a désigné comme juge suprême un homme qu'il a lui-même accrédité. En effet, il a donné à tous une raison déterminante de croire en lui, car il l'a ressuscité d'entre les morts. Nous savons qu'il parle de Jésus, mais à cette époque-là, c'est encore un peu flou. Et c'est ici que commence une aventure de foi pour quelqu'un qui décide de mettre Dieu au centre de sa vie ou pas. Ce matin, tu dois te laisser convaincre par le Saint-Esprit, de manière volontaire, que tu as besoin du pardon de tes péchés, que tu as besoin d'être sauvé spirituellement. Tu as besoin de confesser de ta bouche volontairement que Dieu est vivant, que Dieu est vivant. Verset 32, Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns commencèrent à ricaner, d'autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». Quand on parle de Jésus l'humaniste, ça va bien. Quand on parle de Jésus sauveur du monde et ressuscité d'entre les morts, là, il y a un tri qui est fait. Et notre prière en tant qu'église de l'Épi, c'est que ce matin, le Saint-Esprit parle à votre cœur, à mon cœur, nous convainc que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est la foi, c'est le miracle de la foi en nous. Est-ce que tu auras la foi ce matin d'écouter ton âme, d'écouter ta vie intérieure, te supplier d'entrer en relation spirituelle avec Dieu? Est-ce que tu vas répondre à cette soif de ton âme à chercher Dieu ce matin? Je vais inviter l'équipe à venir. Il faut avoir beaucoup de foi pour écouter son âme qui est en train de te dire « j'ai besoin de Dieu ». Et il faut encore plus de foi pour un chrétien d'écouter son âme quand son âme lui dit « tu dois revenir à Dieu ». C'est dur de revenir à Dieu quand on est chrétien. On a tellement de schémas, on a tellement de textes bibliques qui pourraient soit nous justifier, soit... Soyons simples ce matin, frères et sœurs. La Bible dit que Jésus se prépare son Église pour qu'elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et ce n'est pas un problème pour Dieu de continuer à laver son Église, à purifier son Église, à pardonner son Église, à relever son Église, à rendre belle son Église. Parce que Dieu veut qu'on ait des cœurs en bonne santé. Dieu veut qu'on ait une vie chrétienne en bonne santé. Et pour qu'on puisse avoir une vie chrétienne en bonne santé, à un moment donné, il faut se poser la question, qui est-ce que j'adore ? Verset 33. C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Et dans un instant, nous allons nous retirer de cette assemblée pour retourner dans notre vie quotidienne où Dieu nous attend aussi. La croix. La croix, le symbole de la croix. La croix n'échappe pas à cet attrait que nous avons, nous les êtres humains, à trouver des idoles. Nous avons beaucoup d'édifices dans notre pays. Nous avons beaucoup de croix un peu partout. Et peut-être que quand vous êtes venus jusqu'ici, vous avez vu une croix, vous êtes passé devant une croix, un symbole d'une croix. Vous savez, on peut connaître la croix, mais pas connaître intimement le Dieu qui est mort sur cette croix. Avant d'être porté à notre cou, avant d'être sur nos pulls, avant d'être sur nos descriptions Instagram, TikTok, ADN chrétien ou quoi. Avant tout ça, avant d'être photographié quand on va dans une ville et qu'on photographie cette cathédrale et qu'on voit des symboles de la croix. Parfois nous-mêmes chrétiens, on connaît la croix mais on a perdu de vue qui est le Dieu qui est à la mort à la croix pour nous. Et c'est pourquoi dans un instant nous allons prendre ces éléments pour se souvenir de qui est celui qui est mort à la croix pour nous. Avant d'être porté à notre cou, la croix, c'est avant tout l'objet sur lequel Jésus a été crucifié. Là où il a emporté avec lui dans la mort tout ce qui nous empêche spirituellement, idéologiquement, religieusement d'entrer dans une relation spirituelle avec lui. La croix, c'est le symbole de la malédiction de nos idoles sur nos vies que Jésus prend. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons nous bénis. C'est Jésus qui a pris la malédiction de nos idoles, de nos péchés, sur lui. Et si tu lui demandes, il prend ce matin la malédiction de ton idolâtrie sur lui. Et il te relève, il te pardonne, il te restaure. La croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Aucun autre Dieu dans aucune autre religion ne s'est offert à notre place. Nous offrons à nos idoles du temps, de l'argent. Jésus, lui, a donné à l'être humain sa vie. Dieu nous offre sa vie pour que nous ayons gratuitement la vie éternelle. Le verset 34, ma dernière lecture de ce matin. Quelques auditeurs suivirent Paul et devinrent croyants, devinrent des disciples. Par exemple, Denis, un membre du conseil municipal, que Dieu touche les membres du conseil municipal d'aujourd'hui et de 2026. Qu'il y en a encore plus qui découvrent l'amour de Dieu. Moi, je reste convaincu que s'il y a plus de chrétiens dans ces milieux-là, Strasbourg va être une ville où l'amour de Dieu sera manifesté par le fait de s'aimer les uns les autres. dénisse un membre du conseil municipal. Il y en a au milieu de nous qui travaillent dans l'Eurométropole, à la ville de Strasbourg. Il faut prier pour eux. Il faut demander au Seigneur de les bénir, parce que Dieu veut aussi toucher et bénir ces personnes qui travaillent là. Damaris, une femme de la haute société, et d'autres avec eux. Ce matin, c'est notre prière. Que plusieurs croient, que plusieurs deviennent des disciples de Jésus, que plusieurs fondent leur vie, fondent leur foyer, fondent leur business, fondent tout leur être entier, non pas sur eux-mêmes, mais sur Dieu, sur sa grâce et sur l'Évangile. Ce matin, je nous appelle à sérieusement, avant de prendre ces éléments, de se lever ensemble, si on peut se lever tous ensemble dans la présence de Dieu. Et avant de prendre ces éléments, je vais inviter l'équipe à venir et se préparer. De prendre un temps. Prendre un temps. Pour s'examiner soi-même. N'oublie pas, le Saint-Esprit a parlé à ton cœur, mais Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu, il n'est pas là pour t'écraser. Dieu est là pour t'emmener à la repentance. Et la repentance, c'est un cadeau. La repentance, ça veut dire que tu peux repartir libéré de ce lieu. Tu peux repartir libre de ce lieu. Tu peux partir justifié de ce lieu. La repentance, c'est un cadeau. Ça picote, mais c'est un cadeau. Et juste avant de prendre ces éléments, j'aimerais faire un appel à quelqu'un au milieu de nous. Il y aura deux appels avant de prendre la scène. La première, c'est un appel pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu n'es pas engagé avec Dieu par les eaux du baptême, par un baptême, par immersion. Tu viens peut-être à l'église par respect, mais... tu vois la croix, tu vois notre église, tu sais qu'on parle de Jésus, mais tu ne connaissais pas Jésus personnellement. Mais ce matin, tu as envie de connaître Jésus personnellement. Et juste avant la distribution, je voudrais faire un appel au salut. C'est-à-dire à la reconnexion, à la recommunion, au fait de revenir dans une relation, d'être dans une relation avec Dieu, de quelqu'un qui ne connaît pas. Je voudrais inviter l'église juste à fermer les yeux, c'est un temps de recueillement, s'il vous plaît. Et si toi, tu es dans ce lieu, tu n'as jamais fait cette démarche de dire « Jésus, sauve-moi, pardonne mes péchés ». Je suis pécheur, je suis loin, j'ai des idoles, j'ai besoin d'être libre de ça. Si tu es concerné par cet appel, juste pour que je puisse t'identifier, prier avec toi, prier pour toi, tu peux juste lever la main maintenant et dire « Oui, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. » Tu peux lever la main maintenant dans ce lieu et dire « Oui. » Première personne lève la main et donne sa vie à Jésus alors qu'il ne l'a jamais fait. Une deuxième personne aussi. Tu n'as jamais fait cette démarche. Waouh, il y a une jeune qui lève sa main. Waouh. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Tu ne l'as jamais fait. Oui, on vous voit aussi au fond là. Seigneur, nous prions pour les personnes qui sont en train de lever la main et qui veulent faire une démarche de réconciliation avec toi. Nous pouvons le dire et on va le dire en église, aujourd'hui le salut est rentré dans ces maisons. Aujourd'hui le salut est rentré dans ces maisons. Saint-Esprit, nous te prions qu'il y ait une vague de ta grâce qui déferle sur leur vie maintenant. Te prions que, alors qu'ils ont confessé leurs besoins de Dieu, qu'ils ont confessé qu'ils sont loin de Dieu, te prions de les remplir de ta présence maintenant et de venir les libérer de toutes les idoles de leur cœur maintenant. Et que le Saint-Esprit instaure en eux le royaume de Dieu, la présence de Dieu. Toi qui es à ta place, tu peux faire cette prière maintenant en disant « Jésus, pardonne-moi, pardonne mes péchés ». Pardonne mon idolâtrie, n'aie pas peur de dire ça à ta place, tu peux le dire maintenant. C'est une prière de repentance avec tes propres mots. La Bible dit, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il est sauvé, il est restauré. Alors toi, ta place qui a levé la main, dis-le à Jésus avec tes mots. Pardonne-moi, sauve-moi. Tu es ressuscité, tu es vivant, dis-le avec tes mots. Dis-le, laisse ton âme s'emballer quelque part de joie, de dire, je suis réconcilié avec Dieu. Tu as le droit d'être dans la joie, de dire oui Jésus, merci pour ton pardon. Et à la fin de cette célébration, ne reste pas tout seul. Nous serions heureux de faire partie de ton chemin de foi. Tu pourras aller à l'espace vie d'église. Il y a un espace bienvenu, tu pourras te munir d'une Bible. Si tu n'as pas de Bible, on t'offrira une Bible. Tu pourras laisser aussi tout ton contact pour qu'on puisse ensemble, avec toute l'église de l'Épi, cheminer pour que Jésus continue d'être Seigneur de notre vie. Alors ne pars pas de ce lieu sans avoir récupéré ta Bible, s'il te plaît, toi qui as levé la main. J'aimerais inviter maintenant les disciples de Jésus qui veulent continuer à se sanctifier. à abandonner des idoles de tentation. Dans votre combat, il y a des choses, parfois, il faut que vous les remettiez juste à la bonne place, juste avant de prendre la scène. J'aimerais t'inviter à faire cet appel de recueillement avant de prendre les éléments. Et de dire, Jésus, si il y a une idole, révèle-le-moi. Ou alors, si tu sais quelle idole est dans ta vie en ce moment, de dire, cette idole, elle tombe au nom de Jésus. Parce que c'est Christ qui est au centre et au cœur et sur le trône de ma vie. Confesse, confesse mon frère, ma sœur. Mets-toi en règle, aligne-toi avec Dieu, avec sa sainteté. Dans tout ce qui a été dit de Zeus jusqu'aux stoïciens, épicuriens, tout ce qu'on a parlé, toutes ces choses qui peuvent venir pourrir notre relation avec Dieu. Ce matin, c'est le bon moment d'abandonner cela à Dieu. Les éléments vont être distribués, mais restons dans ce recueillement ce matin. C'est important, on reste dans cet esprit d'intimité avec Dieu. Et alors que tu prends les éléments, on n'est pas obligé de s'attendre les uns les autres ce matin. Tu peux prendre les éléments directement, mais juste prends-les dans la grâce. Prends-les dans le pardon. Prends-les avec sérieux ce matin. L'évangile, c'est sérieux. Le combat spirituel, c'est sérieux. L'église de l'Épi a besoin d'être sanctifiée. Nous avons besoin, pour continuer de rayonner comme Dieu veut qu'on rayonne, on a besoin d'être sanctifié, d'être mis à part. Seigneur, je te prie pour les éléments qui sont en train d'être distribués, je te prie pour chaque frère, chaque sœur, tous les baptisés, toutes les personnes qui se sont engagées par les eaux du baptême avec toi, toutes celles et ceux qui ont confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Tu les vois en train de prendre les éléments maintenant, je te prie pour que la victoire de Jésus-Christ continue de les accompagner. Je te prie pour que la joie de l'Éternel soit leur force. Je te prie pour que dans la repentance, il y ait la vie et la victoire maintenant. Je te prie vraiment, Seigneur, de purifier ton Église, de continuer de laver spirituellement ton Église, de nous protéger, qu'on puisse être une Église qui gardons notre cœur plus que toute autre chose, parce que là où est notre trésor, là sera notre cœur. Tu vois, certains sont en combat maintenant, nous te prions, Seigneur, qu'ils puissent vivre comme une délivrance, une libération ce matin. Qu'ils puissent prendre les éléments sans culpabilité, mais avec repentance de dire « Jésus, merci pour ton pardon. » Que personne ne se prive et ne se coupe de la table du Seigneur, mais confesse tes péchés, confesse tes idoles. Et Dieu qui est fidèle et bon te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne. Si à la fin de cette célébration, c'est difficile pour toi et que tu as besoin d'aller plus loin, il y a l'espace écoute et prière. RPA en reparlera dans un instant. Mais ce que tu as démarré ce matin, c'est pas perdu. Tu as fait le bon choix, le choix de la repentance, le choix de croire et de mettre la foi en Jésus-Christ par le biais de ces éléments, parce que Jésus te relève. Et on veut continuer à prier pour toi. Donc si tu as besoin de prolonger ces moments dans un instant, sache que l'Église se tient prête dans un espace pour toi. Avance avec le Seigneur. Frères et sœurs, ne lâchons rien. Jésus revient bientôt. Et il s'apprête à chercher une Église qui n'a pas été parfaite, mais qui a toujours combattu le bon combat de la foi. Qui se met dans les meilleures dispositions possibles pour le jour du retour de son Seigneur. Seigneur, bénis notre église locale. On en a tellement besoin. Amen.
S'effondre autour de moi. Mes rêves et mes espoirs. Tu viens calmer mon âme. L'échec a pris la place. Je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour, viens. Souffle en moi ta vie. ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Si je perds pied sous
et l'honneur, Jésus. Amen. Si vous avez été interpellé ce matin, si peut-être vous avez un sujet qui est lourd sur votre cœur, il y a encore toute l'équipe d'écoute et prière qui va se tenir sur ma gauche pour prendre du temps avec vous. Si vous avez, il y a des fardeaux qui sont lourds, il y a des choses que vous avez besoin de partager, n'hésitez pas à prendre encore ce temps pour les autres. Vous pouvez échanger, prendre des nouvelles, vous encourager. C'est ça l'Église. Bon dimanche à chacun, chacune, et on salue aussi ceux qui nous ont suivis sur Internet.